Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Jacques Barreau.
Bonjour.
Pour une nouvelle année, la Nef est le partenaire de ce podcast. C'est un soutien essentiel qui me permet de vous proposer deux épisodes par mois. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Nef, il s'agit d'une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est donc un partenaire évident qui travaille à faire advenir dès aujourd'hui les 2030 glorieuses. Jacques, toi, tu es le cofondateur et directeur général de Grandsale, qui est une entreprise née en 2010 avec l'objectif d'aller chercher du café et du chocolat à l'autre bout du monde en limitant au maximum l'émission de CO2 grâce à un moyen de transport unique, c'est le voilier cargo. On va en reparler. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et ensemble, nous parlerons donc de commerce équitable, de l'impact des transports sur le climat et de la nécessité de revenir au temps lent. Pour commencer cet échange, Jacques, je te pose la question que je pose à tous mes invités pour rentrer dans notre interview. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes que tu rencontres pour la première fois et qui te demandent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»
Bon, déjà, j'essaye d'y prendre un peu de plaisir, hein, parce que j'estime qu'on est sur Terre aussi un petit peu pour ça. Au-delà de ça, si on parle du projet Grandsale, on essaye en tout cas de contribuer à quelque part fonctionner différemment, et notamment sur un des soucis majeurs aujourd'hui, qui est le bilan carbone, et plus généralement l'empreinte environnementale, et notamment celle du transport maritime. Donc l'idée de Grandsale est venue de cette volonté d'améliorer quelque part le bilan carbone du transport maritime, sachant que moi et mon frère, donc Olivier, on a œuvré pendant pas loin d'une dizaine d'années au développement des énergies marines renouvelables, et notamment de l'éolien offshore. On peut par exemple parler du site de Saint-Nazaire, hein, qui est actuellement en construction, et dont on a réalisé le développement. L'idée était de développer une nouvelle société qui serait toujours en phase avec ces notions de développement durable. Et on en est vite venu à s'intéresser au transport maritime. Et il est vrai que même en 2022, là, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé mieux qu'une voile et un mât pour pousser un navire de manière décarbonée. Donc la solution est vite apparue comme étant de remettre en œuvre finalement ce qu'on faisait déjà il y a un siècle ou plus. Des cargos, c'est-à-dire des navires qui sont en capacité de porter de la charge, mais qui le font avec un gréement, finalement. Et en revanche, on souhaitait le faire avec la technologie d'aujourd'hui.
On va reparler de tout ça, Jacques. On va rentrer un peu dans le détail, justement, des solutions que vous avez développées et de ce que vous êtes en train de faire avec Grandsale. Mais avant ça, à chaque fois, je fais le même exercice que d'aller fureter sur LinkedIn pour aller voir comment les personnes à qui je vais donner la parole se décrivent. Et je tombe toujours un peu, comment le dire, c'est pas de la déception, mais voilà, toi, tu te décris comme, c'est vrai, hein, fondateur, directeur général de Grandsale, c'est très bien, mais moi, ça me va pas, d'une certaine manière, cette description, parce que si avec le podcast 2030 Glorieuse, on met en avant les métiers de demain, il y a besoin de les mettre en mots aussi, pour qu'ils puissent se mettre en image, ces métiers. Comment tu redéfinirais ton métier plus précisément, justement, en prenant en compte l'objectif de ce métier, son implication, ses conséquences sur la société?
En fait, la réflexion de base est que on est tous des spationautes. On habite en fait sur la Terre, qui est notre seul et unique vaisseau spatial, notre seule et unique maison. Et avec du coup un impératif d'en prendre soin à court, moyen et très long terme, évidemment. Et si aujourd'hui on cherche à développer des entreprises qui se développent sur le dos de la planète, finalement, à quoi bon ? On est en train de petit à petit grignoter ou flinguer notre fameux vaisseau spatial. Et ce ne sont pas les fusées d'Elon Musk qui permettront rapidement, en tout cas, d'envoyer des milliards de personnes sur d'autres planètes. Donc, on est quelque part condamné, mais c'est une très bonne chose, on est condamné à cohabiter intelligemment et durablement avec notre planète. Et je dirais que se lever tous les matins en développant une entreprise qui justement essaye d'être durable, c'est déjà, ça donne envie de se lever. Ça donne un peu de sens, en fait, à notre vie. Et j'espère également que ça peut montrer un exemple, c'est-à-dire montrer qu'on est aujourd'hui en capacité d'imaginer des modèles économiques et des organisations qui, de manière concrète, améliorent les choses.
Est-ce que ça te va si je te dis que tu es commerçant à la voile ?
Oui, sauf que c'est qu'une partie de l'équation. Mais le commerce étant une bonne chose, hein, finalement, puisque il faut voir le commerce comme un échange.
Absolument, échange de valeur. Un générateur de liens entre les peuples.
Ouais. Exactement, un générateur de liens. Donc moi, j'ai toujours vu le commerce de manière positive, évidemment, à condition que le fameux commerce... par son existence, ne viennent pas dégrader la fameuse planète, l'unique planète sur laquelle on est. Quoi.
On revient à l'activité de Grainsail. Je le disais, c'est né il y a maintenant plus d'une dizaine d'années dans vos têtes, à ton frère et toi. Il y a eu plein d'étapes, hein, et notamment 10 ans plus tard, une sacrée étape de franchie avec la mise à l'eau d'un voilier de charge, justement, de 24 mètres de long, qui a une capacité de chargement de 50 tonnes et qui est à la fois cette... vertu de continuer la grande lignée qui, comme tu le disais, existe depuis des siècles, hein, de ces bateaux qui avancent grâce au vent et qui à la fois est un bateau tout à fait moderne. C'est un bateau qui a effectué sa première traversée transatlantique en novembre 2020 pour aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique des produits exotiques, notamment du café et du chocolat.
C'est ça, puisque finalement, le raisonnement de base, donc Olivier notamment, parce que c'est lui qui a eu l'idée initiale, donc on était parti sur cette notion de développer un voilier cargo. Sauf que quand on veut devenir armateur, notamment marine marchande, la question qui suit, c'est OK, qu'est-ce qu'on met dans les cales pour quelque part générer les affrètements et donc les chiffres d'affaires. Et c'est là où la réflexion s'est assez rapidement tournée vers le café et le chocolat, enfin le cacao, puisque ce sont des produits, des matières premières qui viennent nécessairement de loin, et dont on a a priori pas trop envie de se passer. Puisque à l'inverse, si on se disait « Ok, le bilan carbone actuel du café et du chocolat n'est pas bon, donc on arrête de consommer du café et du chocolat. » Donc ça, c'est des choses qu'on veut éviter. On veut au contraire essayer de rester sur une écologie qui reste positive. Et donc l'idée était de trouver un moyen de continuer à consommer ces produits très intéressants, sans pour autant, une fois de plus, le faire sur le dos de la planète. Donc cette notion de voilier cargo est vite apparue. Et donc avec un chargement qui serait un chargement d'importation de café vert et de cacao. Donc plutôt en provenance d'ailleurs d'Amérique latine, pour la simple raison que ça devient le prétexte aussi pour traverser l'Atlantique. La question après s'est posée de se dire « Ok, on a un bateau donc, qui est chargé en importation, mais du coup il va repartir à vide. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et puis là, rebelote, on est français, qu'est-ce qu'on sait bien faire ? Ah, on n'est pas mauvais comme sur les vins. On est breton, on regarde en face, on voit rapidement New York comme zone de chalandise, et du coup, on s'est dit, essayons également d'identifier de super bons vins français, disons de ce que la France est capable de faire de mieux en vin biologique, hein, et vendons-les sur Manhattan et Brooklyn, principalement, en utilisant évidemment le navire comme moyen de transport. Et donc, on en revient toujours à cette notion de produits, produits alimentaires, et qui sont des produits qui, au final, doivent générer du plaisir. Parce que ça, c'était aussi une chose qu'on avait compris, puisque donc on venait du secteur maritime, donc on n'y connaissait quelque part absolument rien, ni en café, ni en chocolat, ni en vin d'ailleurs, mais on avait quand même dans la tête qu'il fallait absolument que les produits soient bons, c'est-à-dire que le goût soit à l'honneur, pour que le succès commercial, disons, des consommateurs de nos produits nous permettent petit à petit, avec le chiffre d'affaires qui évoluait, de pouvoir justement fabriquer le navire. Donc voilà, tout était lié, tout était cohérent.
Et ça marche, puisque là, votre premier voilier commence à faire les allers-retours et vous êtes déjà en train de travailler à la construction d'un second bateau qui, lui, fait plus de 50 mètres de long et qui aura une capacité de chargement de 350 tonnes.
Voilà, c'est ça, puisque le navire Grand Sail 1 donc, a démarré son exploitation donc, en novembre 2020, là, comme tu le disais tout à l'heure. Il en est déjà à sa sixième transatlantique. Il va d'ailleurs repartir mi-avril pour New York. Et on a réussi quand même en 2021 à transporter un peu plus de 50% de nos cacaos avec ce navire, donc ce qui est déjà un record absolu. Hein. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui au niveau mondial. Sauf que, évidemment, notre objectif est de transporter 100% de nos cacaos et de nos cafés verts.
Bah oui, c'est ça. Vous avez été victime de votre succès, en fait. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à vendre presque trop de produits par rapport à votre capacité
victime, mais on l'a un petit peu voulu dans le sens où on ne souhaitait pas faire un premier navire trop grand, puisque il y a toujours un risque industriel, finalement, à faire un nouveau concept comme ça de navire de charge. Et donc, on a souhaité, en maritime, c'est un peu la règle, en maritime, on essaye toujours d'être un peu modeste, on reste humble, on va dire, par rapport à la complexité du sujet. Et donc, on a souhaité faire un premier navire dont on savait pertinemment qu'il serait très probablement saturé rapidement. Mais c'était un moyen pour nous d'apprendre, et on a bien fait avec le recul, de manière à ce que le deuxième navire, donc Grand Sail 2, qui effectivement, là, va démarrer sa construction, puisque le contrat a été signé il y a déjà quelques semaines, lui va permettre, en revanche, vu sa capacité, donc 50 mètres de long et 350 tonnes de capacité en cale, va nous permettre de cette fois-ci traiter 100% des cafés verts et des cacaos en provenance d'Amérique latine. Donc évidemment, là, on change de dimension, mais c'est voulu. Mais c'est toujours séquentiel. Voilà, on y va gentiment, et il est vrai que l'expérience de design et de construction du premier navire et du fait de l'opérer, d'ailleurs, nous a beaucoup aidé pour affiner le design de Grand Sail 2.
Tu le disais, hein, cet approvisionnement à plus de 50%, c'est quelque chose d'unique dans le monde. Et à la fois, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est pour l'instant dérisoire, hein, parce qu'à côté du secteur qu'on va appeler classique, on parle de plus de 350 000 tonnes de chocolat vendues en France dans les grandes et moyennes surfaces l'année dernière. On parle de 200 000 tonnes par an pour le café, toujours en France. Et donc, on est sur un rapport de 1 à presque 2 000. Là.
C'est ça. Donc, il y a évidemment, on est conscient qu'on démarre sur une échelle relativement modeste, hein, mais avec une croissance qui est quand même relativement rapide. Il est vrai que là, Grand Sail 2 va changer un petit peu la donne. En revanche, je tiens vraiment à préciser que la solution qui est ici abordée au travers de Grand Sail n'est pas la seule et unique manière de réduire le bilan carbone, notamment du transport maritime, jusqu'en 2050. Puisqu'il y a aussi de bien plus grands navires qui vont devoir également optimiser leur propre bilan carbone, mais ils ne seront pas en capacité de le faire aussi efficacement qu'un navire de taille plus modeste, hein, dans le sens où vous prenez on va dire un porte-conteneur qui fait 300-400 mètres, on ne va pas y mettre des voiles qui permettront de le propulser à 100%. C'est juste physiquement quasiment impossible, ou en tout cas ça coûterait extrêmement cher, le tirant d'air serait juste colossal, donc technologiquement ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut s'attendre à ce que dans les années à venir, alors projetons-nous à 2050, la flotte maritime mondiale va peut-être réussir, et là je suis même peut-être un peu utopique, mais va peut-être réussir à réduire son bilan carbone global de 20%. Et donc la difficulté, c'est que si parallèlement on ne fait pas un effort pour réduire le commerce mondial, en clair, si on ne fait pas un effort pour réduire notre appétit pour le transport de matières tout azimut autour de la Terre, ça n'aura aucun sens, puisqu'aujourd'hui, les projections montrent que d'ici 2050, le trafic maritime mondial aura lui-même, si on ne fait rien, aura lui-même progressé d'à peu près 50%. Donc on aurait fait 20% d'économie carbone et à côté 50% de croissance. Donc en 2050, si on ne fait rien, et malgré nos efforts, on en arriverait à diffuser encore plus de gaz à effet de serre en fait, dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif de faire un effort sur l'optimisation des navires et parallèlement de relocaliser tout ce qui est relocalisable de manière à la fois à créer des emplois, parce que c'était le critère d'ailleurs des années 2000, créer du job en relocalisant, mais également et surtout de réduire le bilan carbone de toutes les matières qui sont nécessaires pour aller produire je ne sais quoi. Donc la relocalisation aujourd'hui devient un facteur absolument essentiel en fait de l'économie carbone.
Et à la fois avec Grain de Sel, vous montrez qu'en étant vraiment vraiment ambitieux dans la démarche, on peut aussi réussir à réduire drastiquement l'empreinte de ces déplacements, tout en étant, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, hein, mais tout en étant viable économiquement et en ayant en plus la possibilité d'améliorer d'autres indices, puisque vous faites en sorte que vos produits aient un impact plus vertueux sur la biodiversité, mais aussi sur les emplois tout au long de la chaîne, hein, que ce soit en Amérique latine et en France.
En fait, la stratégie sur laquelle on s'appuie au niveau de Grain de Sel, c'est la stratégie du développement durable. Alors qu'on appelle souvent RSE actuellement, mais c'est un terme que j'apprécie pas beaucoup parce qu'il n'est pas parlant, et c'est peut-être voulu d'ailleurs, mais bon. Moi, je préfère le terme de développement durable. Le développement durable s'appuyant sur un trépied qui est basé sur l'environnement, le social et l'économie. Et si on prend, donc, commençons par l'environnement, eh bien, chez Grain de Sel, l'environnement, on l'applique donc au travers de produits bio, déjà tout simplement, hein, puisque les produits bio, bah, déjà, favorisent la biodiversité, hein, par la non-diffusion de pesticides et compagnie, permettent aussi d'ingérer moins de produits pour soi-même, donc c'est évidemment quelque chose de très positif. Hein. Mais donc également, au niveau environnemental, donc cette fameuse économie carbone en maritime, donc qu'on obtient de manière très efficace avec nos navires, puisque je rappelle qu'on est, nous, dans le concept de Grain de Sel, on est vraiment sur des purs voiliers. Donc ce n'est pas de l'assistance vélique, c'est vraiment un navire qui est fait pour naviguer sous voile. Et l'eau, donc ça, c'est pour vraiment traiter le volet environnemental qui est évidemment essentiel, mais qui doit être absolument couplé au volet social, donc du développement durable, avec notamment des prix produits raisonnables, pour que justement bah, les produits Grain de Sel, que ce soit les tablettes ou les cafés, soient accessibles à tous. Sinon, à quoi bon ? C'est pas durable autrement. Si uniquement 5 ou 10% de la population peut s'acheter nos produits, c'est qu'on a loupé le match. L'autre élément, c'est qu'on essaye aussi de faire des efforts, enfin le maximum d'efforts en tout cas, pour que les salaires les plus bas ne bah, soient pas si bas que ça. Donc on essaye notamment de se décoller du SMIC à 10, 15, voire 20%, j'espère, rapidement. Et puis également d'avoir des salaires les plus élevés qui soient un facteur 2 à 3 maximum. L'autre élément, c'est qu'on a ouvert par exemple le capital de la holding de Grain de Sel, hein, donc aux salariés qui le souhaitaient, donc qui sont devenus actionnaires. On fonctionne aussi avec un ESAT, donc de la main-d'œuvre en situation de handicap pour produire nos cafés et nos chocolats. Donc voilà, il y a toute une panoplie d'actions concrètes qu'on a déroulées pour pouvoir quelque part être cohérent avec la valeur sociale. Et puis la troisième valeur, c'est l'économie. Si la boîte n'est pas rentable, ben, finalement, elle n'est pas durable. Donc, on se doit également, évidemment, d'être rentable, suffisamment rentable, et notamment quand on a une activité maritime qui coûte très cher, qui est très risquée, et où un sous-investissement se traduirait quasi mécaniquement par une prise de risque, en fait, au niveau des équipages. Donc, comme on dit en maritime, hein, safety first. Donc, c'est sur ce créneau qu'on essaye d'avoir des navires qui soient exemplaires au niveau de leurs équipements et donc de la sécurité des équipages. Et dernier point, les deux valeurs environnementales et sociales sont également très liées. Et là, ça sort totalement d'ailleurs de Grain de Sel. Moi, je le dis quand même régulièrement. On s'étonne parfois de voir des personnes qui n'en ont absolument rien à faire de l'environnement. Mais c'est souvent lié en fait à des personnes qui ont simplement des difficultés à boucler leur fin de mois ou même avoir un toit ou de pouvoir se nourrir correctement. Donc, il y a la fameuse pyramide de Maslow qui décrit ça très bien. Tant qu'on n'a pas couvert en fait nos besoins fondamentaux, on ne va pas pouvoir s'intéresser au sujet immédiatement supérieur, et l'environnement en fait partie. Donc, on voit aujourd'hui que dans notre société, si les personnes ne sont pas socialement bien traitées, de toute façon, elles ne vont pas s'intéresser aux aspects environnementaux, et c'est tout à fait logique. Donc, on voit à quel point les deux éléments sont liés. Alors nous, on essaye de le faire au niveau de Grain de Sel, mais il faut également le faire de manière plus générale au niveau sociétal.
Et en plus, c'est bon.
C'est
quand même quelque chose d'hyper important.
Il faut se faire plaisir. On est là, nous, pour vendre aussi du plaisir en goûtant des cafés, des chocolats. Et ça, c'est un peu normal, finalement. mais des fois c'est oublié.
Moi j'ai eu la chance de goûter vos chocolats chez mon ami à Nantes, qui justement que j'avais vu visiter il y a quelques mois, et c'est là que j'avais découvert le bateau Grain de Sel qui était à quai pour quelques jours. Mais je suis lyonnais, Jacques, comment je fais et comment font les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent s'ils veulent découvrir vos produits?
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas, pas distribué, en tout cas de manière massive, sur Lyon. Il y a quelques points de vente, mais relativement sporadiques, hein, puisque on va prendre quand même quelques années avant d'être au niveau national. En revanche, de Lyon, on peut toujours commander sur grainsel.com. On a quand même fait une boutique en ligne qui permet d'avoir accès à l'ensemble ou quasiment à l'intégralité de la gamme de café et de chocolat grainsel. Donc, grainsel.com, voilà.
Ok, ça marche. Bah écoute, on va partir en 2030 glorieuse dans un monde et une société où le chocolat à grain de sel sera présent dans les boutiques dans lesquelles je vais faire les courses. Et ça sera quand même vachement plus pratique que de commander sur internet. Et en attendant, tu vas nous faire un petit cadeau comme à chaque fois le font de nos invités, puisque tu es venu avec un passage d'un roman que tu voulais nous lire, un roman dans lequel on retrouve les valeurs qui te sont chères et que tu veux voir se propager pour ces fameuses 2030 glorieuse.
Donc le passage que j'ai choisi, c'est un livre qui a été écrit par Bernard Moitessier, qui était un grand navigateur qui a fait plusieurs fois le tour du monde, et notamment son récit le plus connu, qui est La Longue Route, et un passage en particulier qui s'appelle Le Tournant. Donc c'est le moment où Bernard Moitessier, qui est quasiment sur le point de boucler son tour du monde, et donc de rejoindre la ligne d'arrivée, et donc de ramasser son prix, comme il le dit, décide finalement de ne pas rentrer, puisqu'il ne se voit pas se frotter à nouveau au monde tel qu'il le perçoit, qui est un monde quelque part hostile, et il décide finalement de tracer tout droit et de à nouveau refaire un deuxième tour et d'atteindre le Pacifique, et avec l'idée, je crois, d'aller sur Tahiti. Et donc c'est ce passage que je voulais lire, qui illustre aussi les défauts actuels de notre société qui, au-delà même des aspects environnementaux, manque un petit peu de sens. Je ne suis pas persuadé qu'on trouve très facilement du plaisir dans la société telle qu'elle est actuellement. Lorsque Bernard Moitessier avait très vite compris, il ne s'était pas vu rentrer à la maison finalement. Le tournant. J'ai remis le cap vers le Pacifique. La nuit dernière a été trop pénible. Je me sentais devenir vraiment malade à l'idée de regagner l'Europe. J'étais physiquement fatigué par le Horn. Le moral a suivi la même pente et flanché quand j'ai décidé d'abandonner. Certes, il y avait des raisons valables, sérieuses. Mais est-ce la sagesse que de se diriger vers un lieu où on sait qu'on ne retrouvera pas sa paix? Sainte-Hélène ou l'Ascension, oui. Et je ne me serais pas arrêté, j'aurais cravaché dans l'Alizée, je me serais dit « c'est vraiment trop bête, autant faire un petit effort pour essayer de ramasser le prix du Sunday Times et repartir tout de suite après, je connais l'engrenage ». Il y a risque à vouloir atteindre Tahiti sans escale. Mais le risque serait bien plus grand vers le nord. Plus j'en approcherais, plus je deviendrais malade. Si je ne tiens pas le coup physiquement vers le Pacifique, il y aura toujours une île quelque part. L'île Maurice. Une île pleine d'amis de l'océan Indien, juste après Bonne-Espérance. Je ne tiendrai le coup que jusqu'au Pacifique. Je sens que je peux et que ça en vaut la peine. Ma mère, elle a un moral tellement élevé et une vie intérieure si riche. Je sais qu'elle ne se fera pas de soucis et que je la reverrai. Mais il ne faudra peut-être pas que j'aille aussi loin que les Galapagos. Françoise et mes enfants tiendront le coup eux aussi. Je n'en peux plus des faux dieux de l'Occident. Toujours à l'affût comme des araignées qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le monde moderne. C'est lui le monstre. Il détruit nos terres, il piétine l'âme des hommes. C'est pourtant grâce à notre monde moderne que tu as un bon bateau avec des winches, des voiles en tergale, une coque métallique qui te laisse en paix, soudée, étanche et solide. Hein, c'est vrai. Mais c'est à cause du monde moderne, à cause de sa prétendue civilisation, à cause de ses prétendus progrès, que je me tire avec mon bon bateau. eh bien, tu es libre de tirer, personne ne t'en empêche, tout le monde est libre ici, tant que ça ne gêne pas les autres. Libre pour le moment, mais un jour, plus personne ne le sera si les choses continuent sur la même pente. Elles sont déjà inhumaines. Alors il y a ceux qui partent sur les mers ou sur les routes pour chercher la vérité perdue. Et ceux qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent plus, qui ont perdu jusqu'à l'espoir. La civilisation occidentale, devenue presque entièrement technocrate, n'est plus une civilisation. Non, mais c'est un petit passage, il est, je pense, suffisamment évocateur. C'est vraiment tout l'intérêt de montrer quelqu'un qui prend une décision qui est finalement qui est hors norme. Quand on fait une course, la plupart du temps, on la finit, et quand on abandonne, c'est pour finalement rentrer chez soi. Là, il abandonne la course, mais finalement pour la poursuivre. Mais la poursuivre en solo, sans notion de prix, sans atteindre la fameuse ligne d'arrivée qui est pourtant la norme dans ce genre de course, quoi. Et c'est cette espèce d'abandon du système, finalement, qui je trouve est sacrément étonnant pour un personnage comme ça. Et ouais, il se voyait pas, en tout cas, retrouver le monde un peu commun, quoi. Ce sont des réflexions, d'ailleurs, qui arrivent assez régulièrement, hein, pour les coureurs au large qui ont fait un parcours en solitaire un peu long et qui derrière retrouve la violence finalement de la civilisation en revenant au port, quoi.
Justement, hein, même si on n'a pas pris une décision aussi folle que celle de Bernard Moitessier, on a continué notre course aussi, nous, Jacques, puisque on a commencé en 2022 à parler de l'expérience Grain de Sel, et aujourd'hui on est en 2030, en 2030 glorieuse même. On est dans une société qui a largement réussi à changer les boussoles de réussite de notre mode de vie. Et aujourd'hui, on mesure la réussite de notre société au vivre ensemble, aussi à notre capacité à reprendre notre place presque avec humilité parmi le vivant, à le respecter, à le régénérer, à le protéger, ce vivant. Et on a le devoir, nous, Jacques, en tant qu'explorateur, de raconter du mieux qu'on peut tout ce qu'on voit en 2030 glorieuse pour que les personnes qui nous écoutent là et qui sont toujours en 2022 avec leur casque ou avec leur haut-parleur en train d'écouter cet épisode du podcast puissent s'imaginer à quoi ressemblent ces 2030 glorieuses qu'on voit, qu'on vit. Et donc la première question que je te pose, Jacques, toi en 2030 glorieuse, là, qu'est-ce que tu vois?
Eh bien, je vois un idéal que j'espère. Je ne suis pas certain qu'on y arrive, mais... Projetons-nous effectivement dans un monde un peu idéal où on a réussi à la fois à ce que les hommes en général s'assagissent et soient du coup devenus tellement conscients de la fragilité de notre seul et unique vaisseau spatial que chacun a pris sa part. C'est peut-être un petit peu d'ailleurs ce qui manquait dans les années 2020 où chacun était un peu égoïste et attendait que l'autre fasse l'effort. Et en 2030, on s'est rendu compte que chacun a pris conscience qu'il devait lui-même faire les efforts qui allaient bien pour contribuer à un développement plus durable sur la planète. Après, en 2030, c'est donc un mélange de manières d'opérer, d'habitudes qui ont été modifiées, alors qu'en 2020, les hommes n'aimaient pas changer leurs habitudes. Et bien pourtant, il a fallu. Et la nature nous a rappelé qu'on devait changer nos habitudes à force de prendre des avoinés de dame nature avec des tempêtes, avec des sécheresses, avec des températures extrêmes. Finalement, on a fini par se convaincre que oui, il fallait bouger. Et donc, en 2030, on est sur, quelque part, une vie un peu plus apaisée, un peu plus cohérente, et avec, du coup, peut-être un plus grand appétit pour l'avenir. Un avenir un peu moins sombre, en tout cas, et qui, finalement, fait plaisir à tout le monde. On s'est fait un petit peu aider, quand même, par la technologie, mine de rien. Dans les années 2020, il y avait déjà des IA qui commençaient à exister, aussi des technologies quantiques qui ont permis, quand même, de trouver quelques solutions purement technologiques, et notamment pour la séquestration du carbone ou des manières de produire de l'énergie qui sont encore plus efficaces et qui nous ont bien aidés en 2030. mais pas que. Le principal levier en 2030 d'amélioration de notre mode de vie est venu tout simplement de la manière dont chacun vit et a su modifier ses habitudes. Et notamment aussi, pour donner cette envie justement d'améliorer ses propres comportements, bah heureusement que socialement, on a réussi à être un peu meilleur que dans les années 2000 et 2020 et faire en sorte que personne ne soit laissé au bord de la route. Pour simplement faire en sorte que tout le monde s'intéresse à l'environnement, puisque les besoins fondamentaux ont réussi petit à petit à être couverts. En clair, chacun avait son toit, chacun avait de quoi vivre correctement, décemment, et pouvait donc s'intéresser à des problématiques de niveau supérieur, et notamment la problématique environnementale. Et voilà, c'est ça le monde de 2030, un monde qui, là, s'est réellement amélioré, avec cette fois-ci un réel progrès, alors que le progrès des années 2000-2020 n'était qu'un progrès technologique et souvent un progrès d'entreprise qui gagnait toujours plus d'argent, mais pas un progrès pour l'humanité. Donc 2030, pour le coup, a réussi enfin à générer un progrès global, et notamment pour l'homme.
Donc fin du monde, fin du mois, même combat, on a réussi à le concrétiser en 2030 glorieuse. Toi, tu œuvrais déjà à ces changements en 2022 avec Grainsail parce que vous étiez parti du constat que l'industrie maritime, elle polluait énormément et elle devait voilà, se mettre au diapason de cette urgence écologique. À l'époque, en 2020, elle représentait 1 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. C'était environ 3% de l'ensemble des émissions mondiales. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous raconter comment cette industrie, elle a pris conscience de ces enjeux, comment elle a accepté de jouer le jeu, non pas seulement à coup, justement, tu en parlais, d'amélioration technologique et technique, mais aussi en reprenant un peu, bah, comme je le disais en introduction de notre voyage en 2030 glorieux, cette humilité qui nécessite de mieux peser voilà, la nécessité de déplacer certaines matières premières d'un bout à l'autre de la planète pour une simple raison commerciale ou autre.
Mais effectivement, ce qui s'est passé, l'aventure Grainsail a été un des précurseurs en 2020-2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu démontrer que même à une échelle industrielle relativement costaud, on était en capacité de transporter, alors peut-être de transporter moins, mais surtout de transporter mieux. Et notamment, un des faits marquants, c'est que le navire Grainsail 2 a démontré une performance logistique qui était tout à fait similaire finalement à la performance des cargos classiques. Parallèlement, il y a quand même eu un jeu de taxes carbone et d'évolution également vers une relocalisation massive de tout ce qui était possible au niveau des pays, ne serait-ce que pour créer aussi une indépendance. On se souvient à l'époque de la guerre en Ukraine qui avait généré beaucoup de difficultés, notamment avec les approvisionnements d'énergie fossile en provenance de Russie, et qui ont piégé finalement beaucoup de pays, et qui se sont dit, bon, il serait peut-être temps qu'on soit un petit peu plus indépendants les uns des autres, et notamment en favorisant le développement des énergies renouvelables. C'est ce qui s'est également passé à vitesse accélérée, du coup, donc c'est sur ces 10 dernières années, et qui permettent aujourd'hui à des pays d'être beaucoup moins dépendants finalement des énergies fossiles, avec en plus relocalisation en fait de beaucoup de métiers, c'est-à-dire tout ce qui est relocalisable a été relocalisé, avec la création d'emplois, mais surtout la réduction donc de l'empreinte environnementale et son sous-ensemble, l'empreinte carbone. Donc ça a été finalement une logique assez imparable de constater que chaque pays avait intérêt, de manière très concrète, à modifier sa manière de produire en relocalisant, et ce qui, du coup, indirectement, a limité, évidemment, le besoin de recourir à du transport maritime tout azimut. Donc, l'équation vertueuse s'est rapidement installée de manière assez logique sur le constat que des solutions un peu différentes, et celle de Grainsail y a contribué, étaient économiquement tout à fait viables, qu'on était bien dans le monde réel, et que donc ça fonctionnait de manière très réelle, très, très, très évidente.
Ce qu'il y a derrière ce que tu dis, Jacques, c'est qu'en fait, on est passé d'une vision de la croissance à tout prix, et donc quitte à exploiter les autres, les ressources à l'autre bout de la planète pour notre propre profit, et en plus pour voilà, des besoins qui étaient soit un peu dérisoire, soit pas forcément, en plus, qui donnait pas forcément toute sa place à la notion de plaisir, à une société d'efficience, comme le montrait très bien déjà Grindsale à l'époque, hein, où on fait beaucoup moins, mais on fait aussi mieux. Et donc, comment à l'échelle macro, ça a vraiment pu faire bouger les choses? Parce qu'à l'échelle micro, c'est assez simple à comprendre. Hein. Aujourd'hui, les citoyens, les Français, les Françaises qui continuent à consommer hein, du chocolat et du café, ils en consomment beaucoup moins. Mais par contre, il est bien meilleur et c'est redevenu un vrai luxe dans le bon sens du terme.
C'est ça, on rejoint toujours finalement la notion de plaisir, que ça soit le plaisir de déguster une très bonne tablette de chocolat ou un très bon café. Ce plaisir peut être un peu moins présent en volume, donc on a privilégié la qualité à la quantité, et vite apparu comme une évidence. Mais de la même manière, si on prend les vêtements, où à l'époque, dans les années 2020, il y avait une espèce de frénésie d'achat pour calmer un appétit d'achat quasi insatiable, où on achetait tout et n'importe quoi, et en très grand nombre, on remplissait nos armoires avec des fringues qui servaient une ou deux fois par an. On en est venu à acheter des vêtements de meilleure qualité, qui duraient évidemment bien plus longtemps, qui étaient pour la plupart relocalisés, puisque la Chine n'est pas restée éternellement l'usine, on va dire, mondiale. On s'est également rendu compte qu'en relocalisant intelligemment, avec des équipements de production adaptés, bah, finalement, on réussissait à produire des vêtements qui, au final, ne coûtaient pas plus cher, puisqu'ils duraient plus longtemps. Et avec ce sentiment de surtout réduire l'impact en fait, sur la planète. Donc, ça s'est fait de manière cohérente, mais il a fallu beaucoup de pédagogie finalement pour montrer l'intérêt de consommer de cette manière.
En 2030 glorieuse, les gens, hein, mais aussi les entreprises, sont devenus véritablement allergiques au gaspillage. Et vous, déjà, avec Grindsale, en 2020, vous l'expérimentiez, ça. Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez réussi à faire en sorte que le gaspillage, et je parle de gaspillage d'énergie, je parle gaspillage de kilomètres, gaspillage de place, vous est apparu comme une lutte absolue à mener?
Ben, en fait, on l'a mené parce que c'était, il y avait de vrais leviers d'amélioration finalement. Donc si on prend les voiliers qu'on a développés à l'époque, donc Grindsale 2, qui est un pur voilier, hein, je le répète, hein, qui va générer une économie carbone qui est située entre 90 et 97%, donc on est sur quelque chose de massif, hein, et qui en plus garde une efficacité logistique tout à fait similaire en fait à un cargo classique, hein, ben on se voit que finalement le service rendu, il est là, et avec parallèlement une économie carbone massive. Donc en fait, on est dans le concret, on ne s'est finalement absolument pas pénalisé en réduisant le carbone du transport maritime. Après, je sais qu'à l'époque, on s'était également intéressé à l'optimisation, évidemment, du bilan carbone terrestre. Et c'est là où on a eu cette idée de dupliquer sur le territoire nos centres de production, toujours en bord de côte, de manière à ce qu'ils soient alimentés par nos navires directement. Et donc, on avait débuté par Morlaix. Après, on a créé Dunkerque, qui était le centre de production dédié au nord de la France, à la région parisienne et à la Belgique, qui était alimenté directement en bord à quai sur nos navires, accostés et accostent toujours, à 15 mètres du bâtiment. Après, on a développé Bordeaux, il y a eu New York, etc. etc. Donc, on finit par créer ce réseau qui permet à chaque fois de produire dans un rayon régional et qui réduit du coup également le bilan carbone sur le segment terrestre. Et puis après, bah, chaque bâtiment, on a essayé de réduire l'empreinte énergétique des bâtiments de production, puisque le chocolat est un produit qui est relativement énergivore. Tous les bâtiments Grindsale sont systématiquement couverts de panneaux photovoltaïques. On essaye également de récupérer l'énergie au sein des process de production, de rajouter des pompes à chaleur, etc., etc. On a essayé de couvrir tout ce qui était possible, financièrement notamment, parce que ça restait une PME. Mais on l'a fait de manière très pragmatique, sans dogmatisme non plus d'ailleurs, on a essayé de trouver des solutions à un instant T, et avec surtout une volonté de toujours rester en mouvement, de toujours améliorer les choses au fil des années. En fait, c'est jamais fini. Et même aujourd'hui, Grindsale continue à améliorer ses propres processus de fabrication et ses propres processus logistiques. C'est une espèce de seconde nature.
Ces 2030 glorieuses, elles sont advenues aussi parce qu'on a repris le pouvoir des imaginaires. On s'est rendu compte à quel point voilà, il fallait lever la tête, il fallait aussi les rendre désirables. Quel a été le rôle de l'entreprise, du milieu économique, dans la génération de ces nouveaux rêves et comment Grainsale a pu incarner ça aussi dans l'envie d'aller vers ces 2030 glorieuses et de les faire advenir les plus rapidement possible?
C'était justement ce qu'on avait voulu éviter avec Grainsale en le créant, c'était de tomber dans cette espèce d'écologie punitive qui aurait, par exemple, consisté à dire les cafés, les cacaos viennent de loin, leur bilan carbone est désastreux, arrêtons de consommer du café et du chocolat et consommons autre chose. Voilà, il aurait fallu trouver un remplaçant. Et puis ben là, du coup, effectivement, on passe sur une espèce d'écologie un peu douloureuse où finalement, on en vient à cette notion de privation. Et c'est ça qu'on avait réussi à réaliser au niveau de Grainsale, c'est finalement de continuer à se faire plaisir, à prendre du plaisir à déguster des chocolats et des cafés, sans pour autant le faire sur le dos de la planète. Et ça, c'était un des meilleurs exemples consistant à dire que les optimisations environnementales qu'on est capable d'imaginer, et notamment les couplages de métiers, là on a fait un couplage de métiers avec Grainsale, qui est un couplage entre une activité agroalimentaire et un armement maritime au sens marine marchande, et bien que ce genre d'assemblage de métiers très différents finisse par donner du sens, finisse par finalement pouvoir continuer à se faire plaisir avec une belle optimisation environnementale à la clé. Donc on est dans le concret, c'est financièrement soutenable, on paye nos impôts, nos salaires et nos fournisseurs comme toute société normale, et ça fonctionne. Et on n'est pas du tout dans l'utopie, on est dans le réel, et on montre que justement, ce réel, on peut l'imaginer, et qu'il y a peut-être d'ailleurs d'autres couplages de métiers qui peuvent être inventés, qui ne serait pas forcément lié au maritime d'ailleurs, mais je pense qu'il y a d'autres manières d'innover. L'innovation n'est pas toujours que technologique. On peut également imaginer des innovations d'organisation.
Vous avez réussi aussi à redonner ces lettres de noblesse au voyage et à faire en sorte du transport bien plus qu'un simple aspect logistique. Comment vous avez fait ?
Bien, c'est là où les marins qu'on a pu intégrer sur nos différents navires avaient souvent d'ailleurs l'habitude alors soit de naviguer sur des cargos classiques qui sont finalement des bateaux assez ennuyeux, très fortement automatisés et où finalement on est un peu comme au bureau, voilà, les choses se passent, on fait un peu de maintenance mais finalement il n'y a pas vraiment de navigation. Et là on leur a proposé dès le début d'embarquer sur des navires qui devaient être pilotés avec des gréements grandes dimensions qui nécessitent de l'attention, qui nécessitent de l'intelligence de navigation et où finalement on est occupé à vraiment naviguer comme avant, mais avec quand même des assistances. C'est là où le routage est devenu la grande différence finalement entre les navires des années 2020 et les navires qui existaient il y a plus d'un siècle. Le routage consistant donc à être aidé par une équipe à terre qui va préconiser les meilleures routes, les meilleures voies maritimes pour pouvoir exploiter le vent correctement et le faire en toute sécurité. Et donc, les marins, là, ont pu enfin revivre, finalement, cette notion de traversée transatlantique, hein, notamment, qui a été un des parcours les plus utilisés par nos navires, et de le faire avec, en plus, ce sentiment de réelle utilité. Les marins, les voileux, étaient là pour transporter des matières entre, quelque part, l'Europe et les côtes américaines. Et ça change beaucoup, finalement, l'approche. Voilà, ça donne un objectif très, très concret, très utile. Mais après, la course au large doit également a énormément contribué technologiquement. Heureusement que la course au large a existé justement pour pouvoir équiper nos navires avec à la fois les bons tissus, les bons cordages, les bons winches, toutes ces technologies qui venaient de la course au large à l'époque et dont on bénéficie encore aujourd'hui en 2030.
Et j'insiste, Jacques, mais nous, à travers eux, on vit aussi ces voyages.
Hein. Oui, et c'est pour ça que sur tous les produits Grainsale, on a mis petit à petit les photos de notre aventure maritime et qui changent régulièrement au fil des navires, au fil des expériences. On essaye de faire vivre un peu l'aventure Grainsale par procuration, évidemment. Et tout ça reste heureusement d'ailleurs une aventure. C'est jamais fini, toujours aussi plaisant. Et espérons que ça continuera comme ça, à pouvoir donner ce plaisir à la fois gustatif et ce plaisir et ce goût de l'aventure en général.
Cette aventure, elle a commencé avec des produits à très forte valeur ajoutée, mais aussi qui ont une identité et une place forte dans l'imaginaire des consommatrices et des consommateurs, parce que ils sont extraordinaires, ils sont délicieux, ils sont riches, ils sont variés. Et, c'était le chocolat, le café, le vin. Est-ce que la liste s'est allongée depuis les 2022?
Ben oui, puisque on avait commencé effectivement par le café en 2013, puis la chocolaterie, c'était en 2016 à l'époque. Et petit à petit, donc on s'était également intéressé au vin qu'on exportait vers New York. Et puis est arrivée l'huile d'olive qu'on est allé chercher donc en Europe cette fois-ci, puisque c'est le pourtour méditerranéen qui est quand même le fournisseur de base au niveau mondial. Et donc, on a fini par réimporter un petit peu d'huile d'olive qui venait d'Espagne, par exemple, et du Portugal en France. Et puis, une partie de la cargaison était réexportée avec nos voliers cargo vers New York, de manière à ce que les New-Yorkais puissent, un peu comme les chocolats, finalement, continuer à se faire plaisir avec des produits très intéressants, des huiles d'olive bien comme il faut, et avec un bilan carbone optimisé. Et puis après, est arrivé naturellement le rhum, parce que voilà, c'est... peut difficilement passer devant la Guadeloupe sans rapporter un petit peu de rhum en France. Donc là, pareil, des produits plaisir qui sont évidemment très très bien sélectionnés et qui bénéficient de ce transport très bas carbone et avec toujours le goût à l'honneur, évidemment. Hein, c'est ce qui fait toute la richesse de la gamme Grand Seil. Hein. Et puis c'est vrai que notre objectif, quelque part, est de communiquer sur cette aventure. Quand on déguste une tablette du café, un rhum ou une huile d'olive Grand Seil, on déguste le produit lui-même, mais on déguste aussi toute l'aventure qui tourne autour. C'est ça qui est intéressant, quoi.
Toi, Jacques, tu fais quoi en 2030 Glorieuse ?
Je me repose. Je me repose et j'essaye de profiter un peu de la vie, parce que là, je suis un peu le malin comme ça à raconter ce qui s'est passé, mais ça a été aussi énormément de travail, évidemment. Et vient un temps où on essaye quand même de profiter quand même un peu de la vie et de ne pas être en permanence à travailler, à passer des heures et des heures. Donc c'est le temps où petit à petit, je réussis à me poser un petit peu et à profiter un peu à profiter du monde, à profiter des gens, à profiter de la vie.
La route, elle est longue hein, encore avant ces 2030 glorieuses, Jacques. Cet exercice qu'on a fait, de tenter de proposer un cap, ça va être très très vite rattrapé par le quotidien des personnes qui nous écoutent, mais aussi par le nôtre, et ça peut être forcément source d'inaction en ce moment en particulier. Du coup, ma dernière question, Jacques, c'est quel est le premier pas, ou en tout cas le pas supplémentaire que tu suggérerais à celles et ceux qui nous écoutent pour les faire advenir le plus vite possible ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble?
On est souvent il y a l'approche des petits pas finalement qui permet de ne pas prendre peur et de modifier ses habitudes petit à petit. Et je pense qu'il faut savoir, sur une problématique qui reste quand même globalement très complexe, savoir l'aborder par petits morceaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a développé Grand Seil. On n'a surtout pas commencé par développer simultanément une torréfaction, une chocolaterie et un voilier. On l'a fait en séquençant. Et je pense que chacun également dans son quotidien doit pouvoir petit à petit, étape par étape, faire évoluer ses habitudes et ses propres comportements pour finalement jour après jour être de plus en plus vertueux par rapport à la planète. Mais c'est là, j'insiste, c'est vraiment à chacun de se prendre en main. Faut surtout pas attendre de l'État ou attendre de, je sais pas, même des technologies comme c'est parfois évoqué. Que tout soit résolu, chacun doit prendre sa part. On est tous co-responsables de ce qui nous arrive en ce moment au niveau de l'environnement en général. On est co-responsables, pleinement co-responsables de ce qui arrive. Et donc, on doit, en responsabilité, agir chacun à notre échelle, puisque c'est un levier extrêmement efficace. Quand tout d'un coup, ce sont des centaines de millions ou des milliards d'individus qui commencent à améliorer chacun leur propre comportement, l'efficacité est au rendez-vous. Sauf que la condition, c'est effectivement d'être socialement en capacité de s'intéresser à tout ça. Et c'est là où une société, si elle ne fait pas attention à ce que le peuple soit socialement bien comme il faut, faut pas rêver. Les les gens ne s'intéresseront pas aux problématiques environnementales. Voilà, le social et l'environnement sont intimement liés. J'espère que petit à petit, on va pouvoir améliorer le quotidien, notamment sur les petits salaires. C'est ce que j'essaye de faire, là, modestement, avec GrandSale, et c'est des fois difficile. Là, on essaye de faire le maximum pour essayer de faire décoller les petits salaires, en fait, ceux qui sont proches du SMIC, essayer d'améliorer le quotidien, et c'est vraiment difficile, parce que là, il y a une équation économique qu'il faut quand même identifier. Mais je me dis qu'en fait, on n'a pas le choix. Sinon, à quoi bon si on passe notre temps à compter le moindre centime et que les fins de mois restent difficiles, les sujets environnementaux passent à l'as, évidemment.
Et avec une notion de plaisir aussi qui revient au centre de notre action.
Ouais. Bah, le plaisir est le moteur de l'humanité. On fait rarement les choses spontanément sous la contrainte. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et le plaisir est effectivement au centre de tout. Donc, soyons sur une écologie qui soit quand même positive, où on trouve les moyens de l'expliquer positivement. Ce sera bien plus efficace que de le faire de manière punitive, évidemment. Je pense que le côté punitif, de toute façon, sera géré par la nature, qui nous enverra des signaux tellement forts que, de toute façon, on se prendra des avoinés régulièrement. Mais pour modifier nos habitudes, faisons-le avec un peu de plaisir.
Merci, Jacques.
Merci.
Ça y est, cet épisode avec Jacques Barrault vient de se terminer. Je suis très heureux d'avoir pu donner la parole à Jacques qui, avec son frère, ont eu cette idée folle de lancer une entreprise pour assurer le commerce de produits exotiques à la voile. C'est vraiment une expérience qui montre qu'on peut réussir à mener ses rêves qui semblent fous quand même. Je pense que la première fois où ils se sont dit « Tiens, on va faire ça et on va transporter le cacao et le café avec des voiliers », les gens autour d'eux ont dit « Mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais, c'est pas viable économiquement, c'est trop de soucis logistiques, pourquoi vous compliquez la vie ?» Et aujourd'hui, 10 ans après, l'entreprise marche, l'entreprise est en train de se développer, mais surtout, elle a réussi à montrer qu'on peut réussir sans forcément viser à tout prix la réussite économique, mais au contraire en voulant porter ses valeurs d'accomplissement au niveau écologique, au niveau social, au niveau d'un impact positif de ses produits sur la valorisation aussi de ces denrées, comme des denrées de luxe qu'il faut savoir apprécier à leur juste valeur. Je crois que les 2030 Glorieuses vont nous demander ça, de redonner la valeur à tout un tas de choses qu'on a complètement normalisées, alors qu'en fait elles sont absolument extraordinaires, et je pense que en recréant aussi cette rareté et cette consommation beaucoup plus réduite mais aussi beaucoup plus appréciée, ça nous permettra à la fois de réduire notre empreinte mais en même temps de vivre nos vies plus intensément. C'est ce rythme slow qui caractérise bien GrandSale, et surtout un rythme slow qui lui nous permet de vivre encore plus intensément nos rêves, et ce côté d'une aventure qui est, c'est vrai, souvent à la source du mouvement humain, du mouvement de l'humanité, et là en l'occurrence du rêve du transport à la voile avec tout l'imaginaire que ça entraîne. Et ça, c'est vraiment vraiment enthousiasmant. Je vous invite à suivre le travail de GrandSale et notamment les voyages qu'il partage sur les réseaux sociaux. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !